puis à un moment donné, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé, je ne comprenais pas les gens qui doutaient. J'étais saisi de doute. Et ce n'était pas évident. Parce que, je veux croire, il y a le doute qui était là. Et imaginez-vous, quand vous prêchez, il y a une voix derrière, à l'intérieur de vous qui dit, tu ne crois pas ce que tu dis, tu ne crois pas ce que tu dis, tu ne crois pas ce que tu dis. Ou quand tu fais une visite, tu ne crois pas ce que tu dis. Et c'était horrible. Et je demandais des conseils à des pasteurs, mais c'est comme une spirale. Ce que les pasteurs me disaient, ben ils disent, on ne croit pas ce qu'ils disent. Et en fin de compte, je n'arrivais pas à croire. Ils pouvaient me dire. Donc j'étais, je ne pouvais pas être aidé même par d'autres pasteurs, et j'en ai vu. J'ai été même voir un qui est spécialiste en cure d'âme, il n'a pas pu m'aider. Et il m'a dit, je connais quelqu'un qui a le même corps que toi. Et c'était pas évident. Ma femme le savait, elle me priait, et ça devait devenir. Et quoi faire? Dire à l'église? Est-ce une pierre d'achoppement? Alors j'étais difficile à demander la mort. Seigneur, ben, tue-moi comme ça, ça sera ni un scandale, ça sera pas une pierre d'achoppement pour les gens de l'église, comme ça, ils sauront rien. Et je ne voulais pas ébranler les gens. Et ça a duré. Jusque où je priais, je dis, Seigneur, dis seulement un seul mot, une seule parole, et je serai guéri. Et c'est arrivé un matin, par Luc 22, verset 31. Et ça explique un peu ce que j'ai vécu. Luc 22, verset 31. Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis les frères. Et ce verset-là, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et c'était un tremplin dans ma vie. C'était un. Ça a été un tournant dans mon ministère. Et du coup, ça m'a donné, mais alors, un plus de conviction encore. Et vraiment, j'étais relevé, mais alors, quelque chose de formidable, même au niveau spirituel. Et j'ai été voir la personne qui n'avait pas pu être aidée aussi. Il a vécu les mêmes choses que moi, et il a été relevé par le même passage que moi. Tout en même temps. Formidable. Et c'est là où on voit que ben, c'est Dieu qui répond. Et c'est pour ça que, dans un sens, les pasteurs, c'est bien d'être entourés. Mais des fois, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien faire. Et des fois, on a juste à prier. Et je vais lire quelques passages. Le premier se trouve dans Ésaïe 40, verset 27. Isaïe 40, verset 27, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est de Dieu, l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. D'ailleurs, on n'a pas mis le truc pour enregistrer là. Tu peux le mettre.
pas si ce sera assez puissant. Mais...
Est-ce que ma destinée est cachée devant Dieu?
Non.
Il me connaît parfaitement. Il me connaît plus que moi-même. Et ça, c'est formidable. Et il y a un autre psaume. C'est le psaume 77. Vous savez, vous êtes des fois d'avoir un cas d'une personne, vous ne pouvez pas arriver à l'aider. Vous lui dites de parole, mais vous voyez que c'est impossible. Il y a un blocage. Et dans le psaume 77, on va comprendre un petit peu. Verset 2 du psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Ah, c'est formidable, ça commence bien. Hein? Mais regardez. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Mon âme refuse toute consolation. Vous voyez, d'un côté, quelqu'un qui prie, qui crie, et de l'autre côté, son âme refuse toute consolation. C'est pas fini. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui ne peut même plus parler, tellement qu'il est troublé. Je pense aux jours d'anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Vous voyez toutes les questions? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la mienne. Puis, dans vos Bibles, c'est plein de petits points. Pas évident de vivre ça. Et on peut le vivre. Mais à partir du verset 12, il y a un changement de ton. Il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres ont vu, ô Dieu, les autres ont vu. Ils ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nuées. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus retenues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse. Vous voyez, il y a complètement un changement de ton par rapport à ce psaume. Donc vous voyez qu'on peut passer par des moments très très durs, même notre âme, impossible de la consoler, notre âme abattue. Et les psaumes comme ça, pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? Arrête! Espère en Dieu! Vous voyez, dans l'homme, il y a ce combat. Et c'est là où on a besoin de lire la parole, de méditer, s'appuyer, Seigneur, parle. J'ai besoin que tu me parles. Parce que, vous savez, des fois, on la lit, cette parole, on l'étudie, on fait beaucoup de choses pour préparer tel message, tel... D'ailleurs, je me dis, des fois, on devient des fonctionnaires de la parole. Et c'est un danger aussi, hein. Parce que des fois, on prépare pour préparer, mais pas pour nourrir notre âme. Et c'est important de nourrir notre âme. On a besoin de se ressourcer, on a besoin d'avoir cette parole qui nous fait du bien. Et combien Dieu il fait grâce. J'avais un autre problème aussi à un moment donné. Vous savez, moi j'ai des problèmes de français et j'ai du mal, même à l'âge de 14 ans. La directrice avait dit à ma mère, mais tu le chiens, ma patron, et encore, elle n'est même pas bon pour être. Donc c'est bien, ça casse bien. Donc ma mère a dit, non, moi je veux qu'il apprenne un métier. Et donc j'ai appris le métier de menuisier charpentier. Puis après j'ai eu des problèmes de dos, j'ai été reclassé comme dessinateur d'études en bâtiment. Et à un moment donné, quand je me suis converti en 76, Dieu m'a appelé. Et son appel était clair. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai été à l'institut. Oh, quand j'ai commencé à avoir des cours, j'ai dit, Seigneur, je suis tombé à genoux, j'ai dit, c'est toi qui m'as appelé. Et il a fait grâce, il a permis que je fasse toutes mes études, sans le grec ni l'hébreu. Là, je ne suis pas un pasteur complet parce que je ne connais pas le grec ni l'hébreu, mais voilà.
Il y en a qui connaissent beaucoup. Hein.
Mais le problème, c'est que il y a eu le mépris qui était là. Et quand je suis venu ici, comme pasteur, en plus de ceux de Corbeil, il y a d'autres pasteurs qui disaient, c'est bien, Michel est venu à Ris, il vide son église pour remplir les nôtres. C'est sympa, hein? Et j'ai vu des choses où les gens me méprisaient. Mais j'étais tombé dans une phase où j'arrivais à me mépriser moi-même, si les autres me méprisent. Et là, je suis tombé dans une spirale de ce mépris. Jusqu'au jour où une nuit, je me réveille, tout revenait. Je me suis levé, j'étais au bureau, et j'ai eu ce passage d'Ésaïe 53. Et j'ai dit, toi, Seigneur, toi, tu ne me méprises pas. Et tes blessures sont là pour me guérir. Et j'étais guéri cette nuit-là. Je dis, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Amen. Et c'était un réconfort. Voilà les témoignages. Comment Dieu réconforte à travers sa parole. C'est cette parole qui nous soutient. Amen. Et ce qui compte, en fin de compte, c'est la gloire de Dieu, c'est pas nous. Nous, on est là pour servir. Et ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié. Si on fait quelque chose où c'est pour nous, et pour l'étiquette dans notre église, c'est pas la peine. Il faut que ça soit Dieu qui soit glorifié. Si c'est pas Dieu, ça sert à rien. On tente de fermer l'église. Voilà. Donc, c'est ouvert maintenant, une table ouverte. Peut-être que des personnes parmi nous ont peut-être des expériences à dire, des choses. C'est vrai que c'est pas facile des fois d'ouvrir son cœur. Parce qu'on dit, oh, celui-là, ben, je le croyais plus spirituel, je le croyais plus... Qu'importe. Ils pensent ce qu'ils veulent. C'est cette vie avec le Seigneur qui compte. Et si ça peut apporter, si mon épreuve a été une compte et j'ai été consolé, pourquoi je ne pourrais pas le partager à l'autre en disant, voilà, Dieu m'a fait grâce, on peut te faire grâce. Et moi, ça m'a permis à parler avec d'autres personnes en disant, oui, je suis passé par là. Et du coup, ça a permis aux personnes d'ouvrir leur cœur. Parce que bien souvent, il y a des personnes, vous savez, ça m'est arrivé. Quand vous commencez à parler, tout dépend de votre attitude, de votre regard. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes comme ça, vous coupez, la personne arrête de parler. Ça, c'est sûr. Ou à la prison, quand quelqu'un, pour vous confier qu'il a tué quelqu'un, ben, il faut un certain temps de confiance. Il se fait, t'as tué quelqu'un. Ah oui, et comment ça s'est passé? Non, mais ça permet à la personne de continuer à parler. Vous savez, une fois, il y a un surveillant qui me dit, allez voir quelqu'un, il veut se suicider. Encore de mon âge. Vous étiez le voir, elle parlait comme un gosse. Et vous savez pourquoi il pleurait? Parce qu'il allait sortir. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, son père lui disait, t'as un bon à rien. Tu finiras en prison et même mendiant. Et il avait peur de sortir parce qu'il avait peur d'être mendiant. Vous voyez combien des paroles tuent, programmes. Et quelqu'un qui avait 60 ans, vous voyez? Donc, si on peut apporter la parole, voilà. Et c'est pour ça que c'est important, quand il y a un contact avec quelqu'un, Seigneur, donne-moi une parole qui délivre, une parole qui fasse du bien, une parole qui relève. Parce que des fois, on part avec notre schéma, tac, 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 tac. Mais c'est important d'être dirigé par toi en disant, Seigneur, donne-moi la parole juste qu'il faut. Voilà. Je sais pas, voilà, c'est ouvert, une table ronde. Bon. On va se tenir à carreau, mais. Qui ose parler?
Réagir.
Juste. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les crises et les conflits, mais Dieu m'a fait passer par des crises et des conflits comme toi ou d'autres. Et. En fait. C'est horrible à vivre, surtout si on est une cible voilà, en tant que pasteur ou serviteur de Dieu. Mais en même temps, c'est le meilleur moment pour le ministère parce que c'est là qu'on est amené au pied de la croix, à désespérer de nous-mêmes et justement à ne compter que sur Dieu et à abandonner l'orgueil du ministère ou l'orgueil de penser qu'on est quelqu'un. Voilà. Et donc, c'est la façon dont Dieu agit. D'un côté, la crise est horrible, mais en même temps, elle est salvatrice, elle nous guérit.
Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça donne un tremplin. Moi, ça a été un tremplin. Hein. C'est sûr que. Oui. Bon, je ne voudrais pas repasser par là. Je préfère la suite. Non, c'est fini. Mais voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, Joël.
Je pense qu'on a, il y a des moments de détresse qui sont, on peut dire qu'ils sont terribles. C'est-à-dire, il y a des moments où la foi chancelle, quoi, sous l'épreuve. Et qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui a pu m'aider dans des moments comme ça? J'ai vécu des moments comme ça. L'une des choses, c'est sûr, c'est la parole de Dieu. Je sais que j'ai eu des moments où c'était tellement terrible que je me suis posé la question, mais est-ce que toute ma vie, je l'ai construite sur une illusion, quoi. Je suis parti pour servir le Seigneur, et puis c'est tellement catastrophique que peut-être que je me suis complètement trompé. Je me souviens que d'ouvrir la Bible et de lire, de me poser la question, mais est-ce que c'est un livre ordinaire ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Et de commencer à lire, et il y a ce témoignage du Saint-Esprit. Quand tu lis la parole, tu sais que c'est la parole du Seigneur. C'est quelque chose qui, même dans les moments de détresse les plus terribles, qui te soutient. Et puis une autre chose, c'est l'amour fraternel. Le Seigneur a toujours permis, dans les pires moments, qu'il y ait un frère, qu'il y ait quelqu'un qui me témoigne de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est un témoignage qui périt jamais, qui nous tue tout. Et ça nous fait réfléchir que, voilà, quand on aime, si on essaie d'entourer et aider quelqu'un dans la détresse, c'est pas tellement important ce qu'on va dire. Parce qu'en fait, face à la détresse, j'ai presque l'impression qu'on peut pas dire grand chose, on peut rien dire. L'erreur des amis de Job, c'est qu'ils voulaient expliquer. On peut pas expliquer. Il y avait quelqu'un qui m'a dit un jour, les gens, ils vont oublier vos paroles, mais vous, ils les oublieront pas. Qu'est-ce que c'est le vrai ministère? C'est d'être disponible, c'est d'être là. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sache qu'on est là, qu'on est à leur côté. S'ils ressentent cet amour, il y a une action du Saint-Esprit qui donne une consolation qui ne nous appartient pas, en fait, qu'on ne peut pas donner. Et surtout, souvent, pas avec des mots, surtout pas avec des explications humaines, des constructions pour essayer de décortiquer, d'expliquer pourquoi est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas, parce que ça ne nous est pas donné, ça ne nous appartient pas, quoi. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai pu vivre plus d'une fois, on peut dire.
Et c'est vrai, tu as raison de dire que des fois, c'est mieux, simplement, me mettre même la main sur l'épaule, il dit je suis avec toi. Parce que des fois, c'est vrai, faisons attention de ne pas être des amis de Job.
Oui.
Parce que moi je sais que c'est la crainte que j'ai. Hein, Seigneur, aide-moi, garde-moi d'être cela. Parce que c'est vrai que des fois on peut faire plus de mal que de bien. Donc, soyons prudents face à la souffrance. Des fois, Seigneur, je te le confie. On va prier. Quelqu'un d'autre ?
Je voudrais vous dire, enfin, au tout début de mon ministère, il y a eu des moments difficiles, hein, ça c'est sûr et certain, et je pense qu'on vit tous ce genre d'expérience à un moment donné. Mais moi je me souviens d'une expérience au départ où quelques frères dans l'église m'ont un petit peu découragé et même à un point où à un moment donné je voulais carrément abandonner le ministère, dans le sens où que je me disais ben, peut-être que j'avais pas bien choisi cette voie et qu'il fallait que j'arrête. Et je me souviendrai tout le temps, j'avais partagé ça à John Stoffacher, que vous connaissez tous. Et John me disait, ne remets jamais en doute ton ministère, remets en doute la méthode que tu emploies par rapport à ton ministère, mais ne remets pas en doute ton ministère. Et il m'a envoyé une semaine après une carte postale. Alors je sais que beaucoup de missionnaires aiment beaucoup recevoir les cartes postales, mais elle était bien arrivée cette carte postale, puisque dans la carte postale il y avait le fameux verset, vous savez, où certains disciples, quand Jésus avait annoncé certaines choses, ils l'ont abandonné, c'est-à-dire ils sont partis. Et John me disait dans cette carte, il me dit, tu vois, même le Seigneur, il y a des personnes qui l'ont abandonné. Ce verset m'a encouragé de me dire que même dans les moments difficiles, il y a des gens qui vont nous abandonner, il y a des gens qui vont nous décevoir, il y a des gens qui vont autour de nous vont pas apprécier ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais l'important, c'est de continuer à suivre le Seigneur et moi, ça m'a beaucoup encouragé. Alors, continuons à nous envoyer des cartes postales avec des versets de la parole. Parce que ça peut, à un moment donné, que aider, quoi, quand on en a le plus besoin.
Merci.
Oui, juste une illustration de ce qui venait d'être dit. Un moment un peu difficile, ok. Et puis, le Seigneur ouvre une porte pour qu'on parte en famille. Il a pourvu pour qu'on parte en famille. 3 semaines, 1 mois aux États-Unis. Et je rends grâce à Dieu de ce que tous les gens chez qui on est allé dans notre petit périple, qui nous aiment, qui prient pour nous, qui sont parfois responsables missionnaires de la mission où je fais partie, mais quoi qu'il en soit, de partout où on est passé, les gens ont simplement manifesté de la bienveillance, ils se sont occupés de notre famille, nous ont fait des bonnes choses à manger, nous ont sorti, et personne n'a cherché, enfin si, une personne, mais bon, c'est pas du tout, mais on n'a pas cherché à discuter, à me dire pourquoi et comment. Tout le monde devait savoir que ce dont on avait besoin, c'était simplement un peu comme quand David fuyait Jérusalem à cause de son fils. Ben celui qui est venu, c'est Barzillai, le Galaadite, qui veut simplement amener des touchages, de la nourriture, des fromages pour lui et ses amis. C'était ça dont il avait besoin à ce moment-là, David. C'était à ce moment-là. Après, parler, des fois c'est nécessaire, mais. Il y a un moment pour tout. Quoi. Et ce moment-là, il ne fallait pas nous essayer de nous structurer, de faire remonter tout ça. On avait juste besoin de réconfort. Ben, le Seigneur a donné ça, hein, et c'est extraordinaire, hein, parce qu'il donne exactement ce qu'il faut. Je lui rends grâce pour ça. Dans ces moments-là, on voit effectivement l'amour fraternel. C'était ça qui était le plus important, de voir l'amour fraternel. Juste pour terminer, un frère qui nous accueille dans sa maison, et il était tout nouvellement à la retraite. Il s'est mis dehors, sur une chaise longue. Il m'a dit, je reçois avec moi. Et on s'est allongés tous les deux. Alors lui, il était en train de jouer de sa retraite. Et puis il regardait le ciel, et puis il regardait les nuages. Et puis comme un Américain qui jouit de la vie, c'est pas merveilleux. Et ils savaient par quoi on était passé, et on pouvait juste se dire, ben bah ouais, c'est merveilleux tout ça, et on va faire cuire les saucisses au jour plus après. C'était ça qu'il fallait, quoi.
Ouais, voilà, c'est tout. Ça me fait penser à Élie, qui chute après, bah, il a fui, et puis le Seigneur lui a servi l'aéroport. Voilà, il a pris soin de lui jusqu'à temps que, voilà, il l'a relevé. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est...
Donc je suis passé par des moments difficiles, particulièrement en 1998, jusqu'au point où ça m'a donné un effet physique côté gauche que j'avais pour 2-3 ans et des séquelles après. Donc j'avais quelqu'un qui me méprisait, qui disait que j'avais choisi le mauvais système pour les jeunes. Donc ce n'était pas assez profond ici, et à l'étude biblique, pourquoi utiliser quelque chose à remplir les trous, ça c'est pour les enfants. Donc et c'était quelque chose sur Jean 10 et Jean 15, les « je suis » de Jean. Et quand j'ai voulu reprocher et parler avec le frère, non, ça ne servirait qu'à faire pire ma chose. Donc si on ne peut pas parler avec quelqu'un, si ça se casse de tous les côtés, on peut se rappeler ce qu'un sage Warren Wiersbe a dit, donc au sujet de Daniel dans la fournaise. Rappelons-nous que Dieu est trop sage pour jamais faire d'erreur et qu'il nous aide trop pour jamais nous faire de mal. Donc Dieu est pour nous, même si tous sont contre nous, et ce qu'on a dit, donc, on ne joue pas pour les autres, on joue pour Dieu qui accorde son instrument. Je suis son instrument, je me laisse accorder, je reçois des critiques. Il faut être comme le canard qui ne laisse pas pénétrer tout à la peau, comme pasteur. Parce que vous recevrez des coups de toutes parts et c'est difficile quand c'est au-dedans de l'Église. Par les frères. J'aime dire une dernière chose, qu'Alain a dit hier que faire un journal, ça peut nous protéger parfois. Vous savez le cas de Brett Kavanaugh, qui s'est présenté comme juge au Cour suprême des États-Unis. Il a été accusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait un journal depuis qu'il était au lycée. Et il avait ses journaux pour pouvoir vérifier ses lieux là où il était jusqu'aux preuves. Donc un journal, rester ensemble avec les frères, communiquer. Et je termine par une parole de l'Écriture 1 Jean chapitre 3 verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et mais en action et avec vérité. Donc parfois la carte postale, le bras autour, parce que parfois consoler un frère, c'est consoler quelqu'un qui a connu un mort ou même un suicide. Ma soeur et mon beau-frère ont connu un suicide dans la famille, un enfant, et je sais que c'est difficile. Merci.
Oui.
Je me souviens quand on a voulu refaire le bâtiment qu'on avait à Saint-Denis, c'était question de faire des travaux et d'agrandir. Donc on commence par casser. Et on a tout cassé, sauf le toit et les poteaux qui le soutenaient. Et j'ai arrivé à ce moment-là, et tout d'un coup j'ai été pris de panique. Qu'est-ce que tu as fait, Steve? Tu as détruit ce que tu avais, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis c'est même pas ton argent, c'est l'argent du Seigneur, c'est l'argent de tout. J'ai été pris de panique. Et c'est tout ce que j'avais à faire. La seule chose que j'ai fait, c'est le psaume 23. Et le soir, la seule manière de pouvoir m'endormir, c'est de réciter ce psaume mot par mot, méditer sur chaque mot. Et j'arrivais avant la fin du psaume à m'endormir. Et bon, après, ça s'est bien passé, mais j'étais saisi de panique et c'était terrible. C'est une souffrance, mais bon, gloire à Dieu. Parce qu'on avait dit à tout le monde, bon, on casse tout, vous allez pendant 2 mois en ferme, vous allez dans d'autres églises, tout ça, et puis on se revoit en septembre. Et je dis, wow. Mais bon, le Seigneur a fait, et puis pour donner la fin de l'histoire, le bâtiment a été refait. Et puis tout le monde est revenu, on n'a perdu personne. Voilà.
Ah, bien.
Oui.
Je vais me tourner. Il y a une trentaine d'années, j'étais dans le ministère depuis 7 ans à peu près, j'étais arrivé à un point de sécheresse spirituelle. Et le message était très court, ça durait 20 minutes, quoi. Et j'ai perdu le fardeau des âmes, du Saint-Esprit. Et même un dimanche, j'avais prêché sur... cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Vous savez, c'est les preuves là, qui sortent de la ville, la nourriture, tout ça. Et donc j'ai prêché là-dessus, ma femme m'a dit, mais tu n'as jamais expliquer ce qu'était la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu répétais, c'était une journée de bonne nouvelle. Mais voilà. Et c'était significatif du fait que voilà, je ne présentais plus l'évangile. Je traversais aussi une période de problèmes de santé, problèmes de gorge, on faisait des cures thermales, tout ça. Enfin bref. Et pendant ce temps, je lisais aussi un journal qui s'appelle The Sword of the Lord. C'est un journal des sermons, de prédication, l'épée de l'Éternel. Bon, ça fait quand même un travail aussi en moi. Puis je me suis rendu à Bordeaux pour le mai musical à l'époque, il y avait ce qu'on musical, je ne sais pas si c'était reconnu, mais voilà, c'était des réunions, c'était le pasteur Robert Bixby. Et on est sorti faire un pique-nique et on a marché ensemble. Il a commencé à partager ce qu'il avait vécu lui-même. Il m'a dit, tu sais, j'étais arrivé à un point où il me disait, je me levais tard. Plus vraiment de moment avec le Seigneur. À un moment donné, quelque chose s'est passé, j'ai décidé de me lever plus tôt, de sortir, d'aller courir et de prendre du temps avec le Seigneur. J'ai gagné 2 heures chaque jour déjà. Et puis le Seigneur a fait une œuvre en moi, il m'a partagé voilà ce qui s'est passé, son réveil personnel. Et ce que je veux dire là, c'est que c'est important parfois de partager aussi, justement, comme notre frère, s'il a vécu. Il faut aussi partager nos bas et nos hauts. Et lui, il a partagé vraiment son expérience. Alors, on ne peut pas copier les choses, mais j'ai dit, bon, mais pourquoi pas hein. Et j'ai dit, bon, mais Seigneur, voilà, je suis rentré avec cette résolution de dire, moi aussi, je me levais plus tôt. Je vais sortir, je vais courir un peu. Ce n'était pas forcément le plus important. Mais... Et puis, je partais avec la voiture, enfin, c'était en ville. Et donc, là, après, je revenais à la voiture et là, je faisais mon culte personnel. Je prenais du temps avec le Seigneur pour y aller. Et puis, très vite, s'est passé quelque chose. Et j'ai vraiment vécu un renouveau spirituel. Le Seigneur m'a vraiment renouvelé, m'a redonné une vision de la vie. Voilà. Prêcher la parole de Dieu. Et j'ai connu un renouveau spirituel qui a changé mon ministère à ce moment-là. Et j'ai connu des amis bénis ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, partageons aussi nos expériences entre frères et sœurs. C'est important de partager ce que nous vivons, les moments difficiles. Et puis voilà, comment nous en sommes sortis. Alors c'est pas pour copier, c'est différent. Mais ça peut vraiment encourager, montrer que voilà, on peut remonter des trous, on peut sortir de nos problèmes. Et connaître un réveil personnel. Je crois qu'on a besoin d'en voir, on parle du réveil, mais comme ça commence par nous. Voilà. Un peu nouveau spirituel. Merci.
Quand tu dis que c'est pas forcément comme l'autre, oui, parce que Dieu ne travaille pas à la photocopie.
Vraiment, très bien. C'est différent.
Et franchement, de chacun. J'aime bien ce verset, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Prends soin de vous. Formidable, hein? Faites à l'autre? Oui.
En fait, souvent, dans le ministère, c'est la nuit que j'ai lu la Bible. Je ne veux pas m'en vanter, c'est le Seigneur comme ça qu'il a voulu. Ça a eu 2 avantages énormes. C'est que j'étais tout seul avec le Seigneur. Tout seul. Et j'ai toujours appris dans mon enfance, j'étais dans une famille incroyante, et tout ça, j'ai été dans l'enseignement laïque, Puis après, j'ai fait les études de prêtre et tout ça, j'étais seul. Au séminaire, j'étais seul. J'aimais le Seigneur, j'avais été là parce que je ne connaissais pas les évangéliques, ni les protestants, et j'étais seul. Alors je me levais très tôt, je me levais et je priais, je lisais ma Bible. Et quand j'avais une conviction, je me suis mis à pleurer au séminaire. Seigneur, je ne suis pas à ma place, mais je ne sais pas où aller. Mais ici, je m'instruis, il y a une bibliothèque énorme, j'entends des choses de toi, je trierai, je resterai là, et tu me conduiras autre part. Bon, ça a duré 26 ans ma vie, de 16 ans à 42 ans, avant que j'aille à un institut biblique. Donc il y a quelque chose dans le cœur qu'il faut laisser vivre. Il faut le laisser nous pousser là où il veut. Le temps, c'est lui qui l'a. Ça, c'est une chose. Donc, quand je me relève la nuit, il y a deux choses. C'est que dans le ministère, j'ai connu des moments où je dépensais l'argent trop vite, trop généreusement pour les autres, et je me suis exposé, j'ai exposé ma famille de difficultés. Et la deuxième chose, c'est une autre chose que je ne connaissais pas. À un moment donné, j'ai eu une poussée irrésistible vers une femme. Mais c'est irrésistible. C'est ce désir d'adultère quand on ne sait pas d'où il vient. Alors que moi, je suis plutôt d'une nature fidèle, une nature à ne pas vouloir trahir les autres, ni ma femme. C'était quelque chose de terrible. Comme une force. Une force. Et je remercie le Seigneur parce que je me relevais, je priais, et que le Seigneur me garde, malgré ça, cette force-là, ces deux travers dans mon caractère, et pratiquement, j'ai entendu, et ça c'est Dieu qui le permet, j'ai entendu, quand je visitais cette personne, dans sa bouche, elle avait le dos tourné, elle disait, j'ai encore d'autres moyens de le faire tomber. Un ricanement dans la bouche, et j'ai vu que Satan était là. Ce qu'il y a, c'est que, quand on prie, quand on se met tout seul avec le Seigneur, d'abord, les travers personnels, Dieu nous amène à les contrôler, nous arrête à temps, avant la catastrophe, avant l'iniquité, je veux dire, où on fait un mal délibérément alors qu'on sait que c'est interdit, qu'on va au-delà de la frontière, la ligne rouge. Dieu nous arrête. Ça, c'est dans le ministère, la prière est nécessaire, parce que c'est Dieu qui va répondre pour donner les forces qu'on n'a pas. Les forces qu'on n'a jamais, qu'on n'aura jamais. On n'est pas grand-chose devant le péché. Le péché est redoutable, c'est une puissance qui domine en nous. Paul, Romains 7, hein. Alors, qui me délivrera de ce corps de mort, dit Paul, à la fin de Romains 7. C'est vraiment ça, l'expérience. La deuxième chose, c'est que quand je me lève, je suis instruit dans la parole de Dieu. Je me rends compte que Dieu a des choses à dire et qu'il faut du temps avec lui. Il veut qu'on prenne du temps avec lui. Si on l'aime, il faut avoir du temps avec lui. Si ce n'est que des 5 minutes à tout bout de champ, c'est pas vraiment le vrai amour avec lui. Il veut du vrai amour. Hein? Ça, c'est clair. Donc, il faut être entier dans son amour pour le Seigneur, il faut être passionné pour le Seigneur. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous pouvez dormir, que vous pouvez arrêter, que c'est fait, vous avez fait ce que vous deviez faire. Je ne dis pas que c'est une routine, mais c'est vous faites ce qui est bien spirituellement. Et à un moment donné, relève-toi. Ça m'est arrivé de me relever, de prier. Et j'avais le sentiment qu'à l'autre bout du monde, n'importe où, il y avait quelqu'un qui était un chrétien, une chrétienne qui était violée, torturée, ou un groupe de chrétiens. Et je ne connaîtrais jamais ces gens-là. Je devais m'arrêter et prier pour eux. Je devais me relever pendant 2 heures et prier pour eux. Et ça, c'est comme s'ils étaient derrière le mur, là. Les 1000 kilomètres ou les 3000 kilomètres n'existaient pas. Ça n'a pas de distance, la prière, ni Dieu. Il n'y a ni temps ni espace en Dieu. Donc tout ce que Dieu peut nous donner, c'est, il est tout prêt, il est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, quand à un moment donné, je me dis, je vais me relever. J'accepte, parce que je sais que quelque part, il y a des frères, ils vont craquer, on les torture, on est en train de prendre leurs enfants, de violer la femme, de tuer l'enfant pour les faire renoncer à la foi, et bien pratiquement, ils vont avoir la force de continuer parce qu'il y a des frères sur la terre qui intercèdent pour eux. Donc moi je vais vous le dire, nous ne sommes pas une petite île au milieu de l'océan. Nous sommes une petite cellule dans un corps de Christ. Et dans la prière et la parole de Dieu, c'est là que la cellule elle vit. C'est là qu'elle vit. Et je ne considère pas que c'est un ministère du pasteur, la prière, ni la parole de Dieu. C'est le ministère de tous les chrétiens. Et pour le moment, moi, dans l'Église, en tout cas, j'en souffre beaucoup, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent superficiellement le boulot, ils courent, la télévision, l'Internet, et ils n'accordent plus à la dimension essentielle de la vie chrétienne ces deux axes-là. Et ils voudraient que le pasteur résolve ça, mais il ne les réglera pas, le pasteur. Il n'est pas mieux que les autres. Et on a beau prêcher, il ne change pas. Pourquoi ? Il faut se soumettre à Dieu. Il faut vivre avec lui. Et voilà ce que je veux vous dire, moi, c'est que j'ai de la joie à aimer le Seigneur et à vivre avec lui, malgré tous mes péchés, mes fautes, mes limites. Mais je souffre aussi de voir mes frères et mes sœurs qui ne saisissent pas toutes les grâces que Dieu leur donne. Je souffre. Quand je vais dans une salle d'attente à l'hôpital pour venir à Paris, j'avais été opéré de deux hernies, je devais demander l'avis au chirurgien si je pouvais venir ou pas, parce que je suis vite épuisé. Et pratiquement, il y a beaucoup de kilomètres, etc. C'est risqué pour moi. Et pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la salle d'attente, je vois les gens, ils sont ternes, ils sont silencieux. Et je réagis spontanément. Quand j'ai prié la nuit comme ça, je ne vois pas, je n'ai pas peur des gens, je réagis spontanément. Je commence à parler avec eux, à les faire rire. Je connais beaucoup de blagues, je les fais rire. Et une personne me dit, avec sa fille, devant tout le monde, ben, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes joyeux. Et je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte, que Dieu me rendait joyeux. Sans m'en rendre compte, c'était pas artificiel. Mais j'ai dit, je suis heureux de vivre. Ah ben ça alors. Ah ben ça alors. Et tous les autres, comme des morts, se demandaient comment c'est possible d'être joyeux. De toute façon, si on est avec les seigneurs, on n'est pas comme les autres. Donc on a un bonheur immense qu'on retransmet aux autres sans s'en rendre compte. Voilà. Merci.
Oui,
c'est bien qu'on finisse peut-être par la prière.
Ben, je te laisse prier.
Vous voulez le faire ?
Non, vas-y.
Oui, Père, merci parce que tu es ce Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Merci, Seigneur, parce qu'on peut vraiment s'abandonner entre tes mains. Parce que tu es le Dieu de toute consolation. Tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le souverain. Et Seigneur, nous voulons que nos vies te glorifient. Parce que c'est cela qui compte. En priant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.